Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Karine Bertola, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes l'autrice d'un livre sur un architecte naval suisse, Henri Coponet. On va parler de cela avec vous. Vous êtes aussi l'ancienne directrice du musée du Léman à Nyon. Vous m'avez donné rendez-vous. Comme on dirait en espagnol, hein. Évidemment, au bord de ce lac Léman, j'ai vu que vous aviez participé à un livre qui s'appelle Léman Mania.
Oui, c'est ça.
C'est une étiquette qu'on pourrait poser sur votre front, hein.
Ouais,
Léman Maniaque.
Exactement, ouais, c'était un petit peu, je crois, le but de l'éditeur, quoi, de parler de cette passion. Ouais.
Ouais, mais ça pourrait être le titre de votre biographie, on est bien d'accord.
Ouais,
vous êtes dingo du Léman.
Ouais, j'arrive pas à m'éloigner, je reviens toujours. Il y a tellement de choses à découvrir autour de ce lac et j'arrive. Je me lasse pas, quoi. Vraiment.
Alors, on est à un bord du lac Est, on est à Villeneuve où vous m'avez donné rendez-vous. Voilà, il est le lac, là, il n'est pas évident. Hein. L'évidence, c'est le grand soleil, le lac comme aux Maldives. Là, il y a un peu de vent d'air, c'est un vent de marin. Il y a des vaguelettes, le soleil est pâle. Vous l'aimez quand même quand il est un peu plus discret comme ça?
Oui,
enfin,
oui.
Enfin, il n'est pas discret, là, il est un peu dangereux, en fait.
Oui, oui, non, mais il a une belle couleur, bleu foncé, gris, vert. Non, il a une couleur un peu bretonne, j'aime beaucoup, il y a toutes ces vagues. Et puis il y a cet îlot de paix là qui est magnifique avec encore quelques feuilles d'automne. Et moi j'aime bien me retrouver ici là où, à l'autre bout du lac quoi, parce que je suis beaucoup à Genève, donc c'est fantastique quoi d'être là. Puis de se dire cette eau elle va mettre 12 ans théoriquement hein, pour traverser ce lac, c'est...
Théoriquement, oui, c'est ça, 12 ans pour faire le trajet.
Voilà, puis je ne sais pas combien.
C'est beaucoup plus que les bateaux les plus lents du Bol d'Or. Hein.
Voilà, exactement. Non, mais il y a quelque chose d'assez extraordinaire, en fait, ce lac. C'est un accident sur le Rhône. Hein. Il n'y a pas tous les fleuves qui ont un immense lac au milieu. Et puis, il a cette culture, il a sa personnalité, il génère des émotions. Donc, je trouve qu'on a beaucoup de chance. Voilà. Mmh.
Vous dites que vous venez de la région de Nyon, vous êtes souvent à Genève, pour autant, vous l'appelez lac Léman, on est bien d'accord.
Ah oui, non, ça ne se discute pas.
Nous ne discuterons pas là-dessus.
Non, exactement. Hein? Non, on ne va pas faire cette
On
ne
va pas rentrer dans les ambitions trumpistes genevoises de renommer.
Non, c'est lac Léman, c'est le nom qui a été donné par les géographes dès le 18e, le nom romain aussi, Lacus Lemanus, qui dérive du nom celte, la grande eau. Non, c'est la grande eau, le Léman. Voilà.
Moi, je pense que Trump s'est inspiré de Genève pour renommer le golfe du Mexique, le golfe des Amériques, en disant, bon, monsieur, à Genève, ils le font, je peux le faire aussi. Bon, on reste sur cette idée de lac Léman. Vous avez dirigé pendant plusieurs années le musée du Léman à Nyon. C'est un tout, hein. C'est un musée à la fois historique, c'est aussi un musée scientifique s'intéresse à la vie de ce lac.
Voilà, on englobe tous les aspects, hein, que ce soit nature ou culture. Et notre idée, c'était d'être un peu la voix du lac, hein, et la voix de tous les scientifiques qui ont étudié ce lac, la voix aussi des navigateurs, de tous les gens qui travaillent autour de cet élément. Et c'était voilà, notre ambition.
Sur l'aspect scientifique, ça veut dire qu'on y collecte des archives, on a une partie muséale qui permet à des scientifiques de mener des recherches.
Oui, alors il faut déjà savoir que... Ah, on a de la visite.
Oui, mais ça ce sont les passants, c'est une émission d'extérieur, c'est comme ça que ça marche.
Oui, c'est au bord de ce lac qu'a été fondée la science des lacs, la limnologie, hein, par François-Alphonse Forel.
Voilà, moi j'ai appris un mot grâce à vous en préparant cette émission, limnologie.
Voilà.
Alors c'est pas seulement les lacs, hein, c'est les cours d'eau, enfin l'eau intérieure en
exactement,
fait.
Exactement.
Donc une gouille comme dans le Chablais,
voilà,
là,
une
rivière, un fleuve, etc.
Ça inclut toutes les eaux. Et donc, on a toutes les archives de savants, on a aussi toutes les archives de Jacques Picard, et puis après, des archives comme celle de Henri Coponet, l'architecte naval, et bien sûr de plein de chantiers, et également de la CGN. Donc oui, on est plutôt un lieu où on peut faire des recherches en archives sur l'histoire du lac. Et on essaye de vraiment collecter cette mémoire du lac.
Alors on va parler un peu d'un autre aspect de votre vie qui est l'engagement politique. Vous êtes élu au conseil communal de Nyon, votre ville, oui. Étiquette verte. Et vous avez, alors c'est pour ça que j'en parle, parce que j'ai vu que tout récemment, hein, vous avez poussé un cri dans la presse en disant il faut sauver le musée du Léman. Pourquoi est-il en péril ?
Ben, c'est-à-dire qu'on va avoir bientôt une votation sur un préavis qui va décider vraiment de l'avenir de ce musée. Il y avait quand même des gens dans le conseil communal qui disaient « mais bon, le Léman, ça ne sert pas à grand-chose ». Et je voulais rappeler que ben voilà, ce lac est notre principal réservoir d'eau potable pour toute la région et qu'on a vraiment intérêt à connaître toute son histoire, tout ce qui se passe dans le lac, toute l'histoire des pesticides, etc. Et voilà, c'était un combat.
Il y a eu un événement récent de saloperies qui viennent de chez nous, du Chablais, qui sont arrivés dans le lac.
Et voilà, on a quand même...
J'en ris, mais c'est pas drôle, évidemment.
On a quand même pas mal de problèmes avec l'eau potable. Et puis, voilà, ça me semblait impensable qu'on arrête de développer le musée du Léman.
Alors, il faut dire que ce musée n'est pas cantonal. Charge de la seule commune de Nyon, avec pour autant un intérêt et une ambition plus large. Quoi.
Exactement, et ça c'est un petit peu la chance, parce que la ville de Nyon fait vraiment énormément pour ce musée, mais c'est aussi un peu son malheur. C'est clair que si le musée avait été à Genève ou à Lausanne, il aurait eu une autre destinée. Et là, vraiment, mon cri, mon appel, c'était que les cantons s'intéressent plus à ce musée et on reconnaisse toute la valeur.
Les trois cantons, parce que c'est vrai qu'il pourrait y avoir alors, des enveloppes... Pas équivalente, oui. Mais du soutien, quoi.
Exactement, exactement. Mais surtout du canton de Vaud, parce que voilà, qui possède quand même qui est propriétaire de la plus grande partie du lac.
Vous avez fait une formation en muséologie. Oui. Qu'est-ce qui vous amène à ce lac Léman ? On verra dans votre bibliographie, là, vous venez de sortir un livre sur un architecte naval. Vous avez aussi fait un livre sur Ella Maillard et Ella Maillard sur l'eau, hein, sa carrière de navigatrice, enfin sa carrière, en tout cas, sa vie de navigatrice. Vous avez une obsession de ce lac Léman. Est-ce que votre parcours de muséologie allait vers cela ou ce sont des hasards de la vie ?
Ben, c'est-à-dire, j'ai pas depuis très jeune, j'avais toujours eu envie de travailler dans un musée. Je sais pas, j'étais déjà très attirée par ce monde. Après, j'ai fait des études de sociologie et puis il y a eu cette annonce pour être conservatrice au musée du Léman et ça m'a beaucoup plu parce que voilà, on parlait du présent. Quoi. J'aime beaucoup l'histoire, hein, bien sûr, je m'intéresse à tous ces aspects-là, mais j'aime beaucoup aussi le contact direct qu'on peut avoir avec les gens. Et alors, les gens du lac, c'est assez extraordinaire. Il y a tous les navigateurs, les pêcheurs, il y a beaucoup différents métiers et puis aussi une grande communauté scientifique. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant à mettre en œuvre. Et puis, ce que j'ai essayé dans le musée, c'est toujours de travailler avec eux. C'est pas d'être l'experte en blouse blanche qui vient leur expliquer ce qu'est leur lac, mais j'ai plutôt j'essayais toujours de leur donner la parole et qu'ils m'expliquent qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on me dire du lac, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on présente dans le musée, et puis ça a super bien fonctionné, je crois.
Un musée, ça doit être vivant, hein. Ça doit être
Exactement.
Bien pour les spécialistes, ça doit aussi être bien pour le public. Comment on gère cette double ambition ?
Bon, on a pas mal de chance parce que le Léman est quand même au programme des écoles, donc on a quand même beaucoup d'enfants qui viennent visiter le musée. Donc,
pas que de Nyon, ce qui pourrait plaider pour la cantonalisation.
Exactement, hein, ouais, de Genève, de partout. Et donc, ça nous oblige à avoir un discours vraiment accessible à tout le monde.
Et ce musée, il est fréquenté ?
Oui, alors de plus en plus, on reste un musée excentré, donc on a à peu près 25 000 visiteurs chaque année, mais c'est un musée qui est vraiment très fréquenté. Et puis maintenant, je suis à la retraite, mais mes collègues ont fait des expos qui ont pas mal marqué ces dernières années sur la musique. Il y a actuellement une expo sur le plancton, donc il y a plein de choses à explorer.
Comment il va ce lac ? Nous, on a toujours les reflets de à la fois le Conseil du Léman, mais aussi des structures qui le surveillent. Hein. On nous dit année après année que le brassage ne se fait pas et ne se fait plus depuis des années. Donc le renouvellement total des eaux, les eaux profondes ne se renouvellent pas. À votre connaissance, comment il va ?
Ben, c'est quand même inquiétant, hein, parce qu'on a quand même un réchauffement qui est énorme en Suisse, hein, des plus importants au centre de l'Europe. Et puis, la première fois dont qu'on avait parlé du réchauffement du lac au musée du Léman, c'était en 1991. Et depuis, ben, je crois qu'il a, les chiffres le montrent, hein, il y a quand même une énorme augmentation qui s'est produite. Et avec tous les phénomènes que vous venez d'indiquer, donc après des conséquences sur les poissons, sur la faune, les espèces invasives comme la moule quagga. Donc voilà, c'est un élément en mutation.
Voilà, la moule quagga. Hein, qui est une moule extérieure qui voilà. vient d'Amérique, je crois,
oui, c'est
hein,
ça,
et,
oui.
et qui s'installe parce qu'elle n'a pas de prédateurs. Et...
Voilà, c'est ça. Et puis qui va vraiment coloniser vraiment très, très les fonds et qui pose beaucoup de problèmes.
Aux espèces de poissons, de plantes indigènes.
Ouais, elle mange beaucoup de plancton et ça pose beaucoup de problèmes.
Bon, je ne veux pas pousser votre préavis, mais, ou du moins votre cri d'alarme pour la cantonalisation du musée, mais voilà encore une raison. Le fait que le lac n'est pas stagnant, en somme, qu'il est en mutation, qu'il est en évolution et pas en évolution positive pour avoir un observateur cantonal.
Exactement.
Enfin, il y en a, hein, des observateurs purement scientifiques, mais aussi grand public, voilà, parce qu'il faut sensibiliser.
Nous, c'est ça, vraiment, notre travail, c'est de faire cette médiation. Et puis là, le musée, c'est vraiment un outil idéal, quoi.
Alors, on va parler dans la deuxième partie d'Henri Coponnet, donc cet architecte naval, personnage du XXe siècle.
Exactement, il est né en 1907.
Hein. 1907, comme mon grand-papa. Et il a fait une carrière, il était ingénieur, hein, il n'était pas architecte au sens propre, mais voilà, passionné de voile et de plaisance.
Voilà, très jeune, il montre un immense attrait pour la voile, d'abord avec des petits modèles de bateaux, ensuite à 14 ans, il devient mousse sur des bateaux à la Société Nautique de Genève, et très vite, il a cet esprit ingénieur, d'imaginer des nouveaux types de bateaux, et puis il va donc créer ces monotypes. Donc c'est des bateaux qui sont tous conçus d'après le même plan, hein. Donc il y a quatre.
Ça, c'est la définition du monotype. On va beaucoup en parler en deuxième partie. Monotype, ça veut dire le plan est là et vous pouvez le reproduire. Évidemment, il faut
exactement
payer, j'imagine,
tous les bateaux sont censés être rigoureusement
les mêmes,
ce qui permet de comparer vraiment les qualités des barreurs. Donc, il va créer quatre séries monotypes sur le lac, le Moucheron, le lacustre que tout le monde connaît. Et puis ici, à Villeneuve, il y a encore le premier des lacustres, le Goléron. Vous avez aussi ce Moucheron ici à Villeneuve qui a été restauré au chantier de Bruno Angèle, hein, Patience. Un Moucheron qui a été restauré par sa sœur, Frédéric. Et puis, deux autres séries, l'Espadon et le Paladin. Mais c'est surtout le lacustre qui va faire sa renommée.
Sa renommée et son succès. On va en parler dans la deuxième partie qui arrive tout de suite. À tout de suite.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Karine Berthola, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission, toujours sur ces bords de lac automnaux, avec les mouettes et comment ça s'appelle, les noirs avec le front blanc là.
C'est une foulque.
Une foulque. C'était une question piège un peu, parce que si la spécialiste du Léman avait dit ouf, je sais pas.
Une poule d'eau.
Voilà, on dit poule d'eau, mais c'est la foulque en effet. Ces jolis oiseaux lacustres noirs avec les mouettes blanches en deuxième plan. On parle d'Henri Coponnet, cet architecte naval genevois, avec le titre de votre livre, hein, Henri Coponnet, architecte naval, monotype, moucheron, lacustre, espadon, paladin. Ça paraît aux éditions Savoir Suisse. Édition scientifique, hein, d'ailleurs, c'est étonnant.
Oui, alors j'étais vraiment très heureuse et chanceuse qu'un livre sur l'architecture navale, enfin c'est pas un traité d'architecture navale, mais c'est une monographie sur cet architecte naval, soit accepté dans cette collection de l'EPFL.
Qui est liée à l'EPFL, oui, c'est ça.
Ça m'a fait vraiment très très plaisir qu'il y ait cette reconnaissance de ce patrimoine et de cette histoire.
Et livre richement illustré, hein, beaucoup de photos, c'est pas un livre scientifique
Non, c'est pas un traité d'architecture navale, c'est vraiment une monographie, c'est l'histoire de ces différentes séries, d'expliquer comment elles ont été créées, comment elles se sont développées, et pourquoi le succès qu'elles ont eu, ça, je donne un peu de différentes explications. C'est sûr que c'est aussi des bateaux vraiment du patrimoine lémanique, hein, parce qu'ils ont, à part le lacustre qui a essaimé sur les lacs allemands, autrichiens et en Suisse alémanique, les autres séries sont restées purement lémaniques et c'est vraiment notre patrimoine.
Mmh. C'est un temps, vous l'avez rappelé en fin de première partie, il est né en 1907, donc on a son premier bateau je crois en 34.
Hein, oui, c'est ça.
Donc quelques 20 ans plus tard. Et il entre dans un moment où la plaisance devient un phénomène. Avant, c'était quelque chose soit de très bourgeois en Méditerranée, même pas tellement de compétition. Il entre vraiment dans le moment où la plaisance surgit. Hein.
Oui, c'est ça. Il est vraiment au moment charnière de la démocratisation de la plaisance. Et puis aussi, il y a tout un essor des chantiers navals. Et lui, il va donner du travail avec ses différents plans. Il y aura toutes ces compétitions qui vont se créer, il y a tous les clubs nautiques qui se créent aussi autour du lac et tout le monde, il y a vraiment une émulation très importante, tout le monde essaye de former des champions, d'organiser des compétitions et puis les choses pour Coponet qui est lui-même un grand champion hein, parce qu'il a gagné.
On va y venir, c'est un marin aussi, hein, c'est pas qu'un architecte, mais moi j'aimerais rester sur cet aspect de début de la plaisance et de démocratisation ou pas démocratisation. Dans votre livre j'ai vu que le premier, le Moucheron, est pas cher en fait, il est moins de 3000 francs à l'époque.
Oui, oui.
Alors je n'ai pas fait les conversions, mais enfin j'imagine que ça ne veut pas dire 3000 francs de maintenant, mais que ça reste c'est un bateau qui est accessible. Est-ce que ça a été un jour la plaisance un sport populaire? Non.
Oui et non. Ça reste quand même une occupation réservée. Il faut avoir quand même pas mal de temps et quand même certains moyens. Mais,
parce qu'il n'y a pas que le bateau, il faut le mettre quelque part.
Voilà.
Il y a une infrastructure.
Mais à cette époque-là...
il y avait des places dans les ports.
Les ports se construisaient, donc il y avait de la place. Et puis, les gens avaient moins de loisirs. Hein. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont raconté que durant la dernière guerre mondiale, les ports étaient vides. Les gens... naviguait beaucoup dès qu'il faisait beau. Maintenant, il y a beaucoup de bateaux, mais il y en a aussi beaucoup qui restent tout le temps à quai. Donc, non, il y avait vraiment aussi beaucoup de sociétés qui commençaient à donner des cours. Donc, c'était vraiment très prisé.
Et on est dans les débuts de la compétition, justement. Alors, il y a les Jeux Olympiques, je pense, dès les années 20, hein, il y a des compétitions, il y a des régates dans les Jeux Olympiques. Vous avez d'ailleurs parlé de l'expérience olympique d'Ella Maillard dans un autre ouvrage. Les grandes compétitions du Léman, alors, le Bol d'Or, évidemment, mais il y en a d'autres, elle donne naissance à une espèce de mythologie du marin suisse, hein, du marin lémanique
parce que
on le sait, et c'est encore vrai aujourd'hui, l'expérience à Lingui hein, l'a démontré, la finesse qu'il faut pour naviguer efficacement sur le Léman avec ses vents qui changent, etc., donne des marins pointus. Hein.
Oui, c'est ça, on a la chance d'avoir vraiment un très grand plan d'eau, et puis quand même assez venté, surtout dans le petit lac, donc, et des sociétés qui très vite...
Puis pas avec des vents constants, hein. Il faut toujours s'adapter.
Exactement,
c'est ça.
Ouais. Et des sociétés qui très vite ont été très, très actives. Hein. La Société Nautique de Genève est fondée en 1872, mais avant il y avait déjà une société à Ouchy, ensuite il y a eu aussi la Société Reloise, donc il y a vraiment eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour créer ce sport vélique en Suisse.
Et Coponet, donc, lui-même, skipper, enfin, il participe à des compétitions, à des régates, il en gagne.
Oui.
Et il se dit, je veux faire le bateau le plus efficace possible, et ça sera le Lacustre, justement.
Exactement, donc il est très vite un très très bon compétiteur. Il est engagé comme skipper par un peu les pontes de la Société Nautique de Genève. Et comme il a cette formation d'ingénieur, il approche tout ça avec vraiment une raison analytique et il crée à la demande de sociétés nautiques qui veulent populariser la voile, justement différentes séries de bateaux qui doivent être bon marché, qui rationalisent la construction. Donc il y aura d'abord le Moucheron en 34, puis ça sera le Lacustre en 38, et c'est exactement à cette époque aussi qu'est créé le Bol d'Or. Et l'idée c'est que le Lacustre doit permettre
le bateau pour gagner le Bol d'Or, quoi.
Voilà, ouais. Voilà, bon,
et ça marche, hein. Alors pas lui, mais il y en a un qui le gagnera plusieurs fois de suite.
Oui, c'est ça. Pas en lacustre, malheureusement. Je crois que le meilleur résultat, c'est une deuxième place. Mais Coponet va ensuite développer d'autres types de bateaux et lui-même va être le premier vainqueur du bol d'or en 8 mètres J.
Je ne l'ai pas noté, là. Il y a un marin là, qui a gagné plusieurs fois avec Fleur Bleue.
Oui, alors il n'a pas gagné le bol d'or, mais il était le premier des lacustres, voilà. Et là, le Fleur Bleue, ben, c'est vraiment un bateau à lacustre, le numéro 7, qui est absolument exceptionnel parce qu'il a 614 victoires en régate, ce qui doit être, je pense, assez unique au monde, quoi. Même barreur, même bateau. J'ai pas trouvé un autre bateau qui avait...
Comment il s'appelle ce barreur ?
C'est Robert Torrance.
Robert Torrance, donc voilà. Qui a fait une carrière incroyable. Et il y a une histoire autour de ce bateau. C'est qu'il a fini, parce que probablement ses descendants étaient moins passionnés que lui. Et c'est le musée du Léman, justement, qu'il a récupéré et qu'il a restauré.
Oui, parce que son héritier faisait ses études aux États-Unis. Et puis, il avait confié pendant ses études le bateau à un mandataire qui a fait faillite. Et le bateau, là... Fleur Bleue a été abandonnée dans un champ et on l'a retrouvé et il nous a été confié et on a pu ensuite faire toute sa restauration dans deux chantiers.
Confié à condition que vous le restauriez, hein.
Voilà,
c'était ça le deal.
Exactement. Ben, on voulait le restaurer aussi parce que c'était vraiment un témoin de l'histoire des lacustres qui était exceptionnel et puis Robert Torrance l'avait gardé dans un état très proche de l'état d'origine, donc il nous intéressait beaucoup, il avait ce palmarès fabuleux et puis il y avait deux chantiers qui étaient en train d'arrêter leurs activités, celui de Philippe Dur, donc, qui est aussi un très grand champion, hein, plus de 10 fois champion du monde dans différentes séries, et qui s'est occupé de la coque. Et puis pour tout ce qui est gréement, on est allé chez Jean-Philippe Maïra, qui est aussi très connu sur le lac.
Alors ça c'est intéressant, parce que vous parliez d'un patrimoine, on est évidemment à l'époque des bateaux en bois,
oui.
On en voit encore, hein, sur le lac, il y en a quelques-uns, je pense qu'ils coûtent très cher à l'entretien de ceux qui les possèdent, mais voilà, la poésie a disparu dans le monde du bateau. Maintenant, c'est des coques en matière bizarre. Voilà.
On va
pas critiquer les bateaux modernes, mais enfin, ces bateaux-là, ils existent et il faut un savoir-faire. Et vous dites, on a retrouvé des chantiers navals. On trouve encore facilement quelqu'un qui peut se confronter à la restauration d'un bateau de 1938 ou 40.
Oui, alors justement, il y a encore des jeunes absolument passionnés, assez extraordinaires. D'ailleurs, ici à Villeneuve, il y a Igor Yotting, Bruno Angel qui fait un travail fantastique. Il y a aussi le chantier La Mestre qui est basé temporairement à Lamont qui cherche des locaux. Il y a vraiment beaucoup de jeunes passionnés par la construction navale et c'était aussi un peu le but du musée.
C'est mais compris dans son aspect historique.
La construction classique. Ouais. Alors, ça, aujourd'hui, c'est très très rare d'arriver à reconstruire un bateau. Hein, Jean-Philippe Maïra, quand il avait commencé il y a 40 ans, il arrivait à faire un bateau chaque année. Maintenant, il en a fait un durant les 10 dernières années.
Ça, c'est étonnant. Et ce qu'on voit aussi à travers le parcours de Coponet, hein, grâce à votre livre, c'est la petitesse du nombre. Hein.
Ouais,
c'est incroyable
c'est
dans notre monde de multiples où on produit en grande série. Lui, dans toute sa vie, il y a moins de 1000 bateaux. Hein, 600 et quelques, je crois.
Coponet, oui, il y a plus de 450 bateaux qui ont été construits d'après ses plans. Mais c'est quand même énorme pour un architecte naval suisse.
Une notion du temps et de la productivité capitaliste qui est un peu étonnante par rapport au reste du monde.
Oui, bon, après la Seconde Guerre mondiale, il y a une industrialisation de la plaisance et donc là, il y a aussi des nouveaux matériaux qui sont arrivés, le polyester, donc ça a complètement révolutionné. Et puis, toute cette plaisance lémanique qui s'était développée entre les deux guerres, elle a commencé vraiment à péricliter. Mais on a encore, un beau patrimoine quand même sur le lac. Il y a des chantiers comme le chantier aussi à Miguet, à Bouvray, qui a construit plus de 850 corsaires. Donc il y a quand même un très beau patrimoine. Et puis on a ces fêtes nautiques où les vieux bateaux, la Tour de Paix, la Régate de Sier, enfin, il y a à Rolles aussi, la fête des canaux. Donc il y a une vraie culture. Et ça, je pense que c'était fabuleux. C'est ce qu'on a voulu soutenir. C'est cette culture vivante.
Bon, on parle du Léman, c'est le cas dans le monde entier. Hein. Les magnifiques bateaux qui ont été créés pour la Coupe de l'Amérique à la fin du 19e, début du 20e siècle, ils existent encore. Ils sont aussi devenus excessivement rares et chers pour des passionnés, des gens qui ont des moyens de les entretenir, évidemment. On parlait de lacs vivants et de lacs en mutation dans la première partie de cette émission, du côté de la plaisance et de la voile, avec cette, cette course gigantesque qui est le Bol d'Or, je dis gigantesque par son histoire. Et on a une plaisance bien vivante autour du lac. Enfin, une plaisance compétition, je veux dire, un monde de la régate.
Oui, regardez les résultats qu'il y a actuellement sur la course au large, à la Mini Transat, c'est le fils de Bourgnon qui vient de gagner. Après, il y avait aussi Joshua Schopfer. Vous avez les enfants
c'est
Métro.
Un marin qui s'appelle Joshua, là, c'est déjà...
Ouais. Et puis Justine Métro aussi, qui était cinquième. Ouais. Donc oui, on a...
Oui, ça c'est bien de le relever. Hein. Les grands skippers de mer viennent souvent, parfois. Enfin, voilà. Les grands Suisse, en tout cas, ils viennent souvent du Léman, quoi.
Oui, et puis je crois, la Coupe d'Amérique, c'est quand même exceptionnel hein, de l'avoir quand même remporté deux fois pour un pays qui n'a pas d'accès à la mer. Et je crois qu'ils vont repartir pour une nouvelle campagne. Donc, oui, c'est quand même... Il y a quelque chose dans notre ADN suisse, la voile, on fait partie.
Bon, on n'a pas parlé des voiles latines qui étaient encore l'aïeul, hein, l'aïeul de la plaisance sur ce lac Léman. On vient de passer une demi-heure ensemble, je ne vous ai même pas demandé si vous naviguez.
Je navigue plus trop parce que ça prend beaucoup de temps de faire ce travail en archive. Et puis, j'ai pour des raisons de santé plus de bateaux. Et donc, voilà. Mais je navigue très volontiers sur les bateaux CGN. Tout l'été, c'est mon second bureau.
L'œil, en tout cas, reste humide de bonheur en contemplant le lac, j'en suis témoin. Merci à vous Karine Bertola, vous êtes l'autrice donc de ce livre Henri Coponnet, architecte naval, on y apprendra plein de choses, c'est aux éditions Savoir Suisse.
Merci.